Europe Midi.
Romain Desarbres.
Europe Midi, les midi 20, merci d'être avec nous. On parle évidemment de la réforme des retraites. On est avec vous au 39-21 et avec Thomas Ménager, député RN du Loiret, et Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne. Rebonjour messieurs les députés. Bon, Emmanuel Macron juge cette réforme indispensable. C'est ce qu'il a dit hier. Monsieur le député Renaissance, c'est-à-dire indispensable?
Vous savez, le sujet de fond, c'est qu'on a un problème de démographie. On a de plus en plus de personnes âgées qui sont à la retraite et de moins en moins d'actifs. Et donc, c'est ça qui crée le déficit et le déséquilibre dans notre système des retraites. Et donc, pour rééquilibrer notre système par répartition, parce qu'on y tient, un système, et ben, vous savez, vous avez que trois options. Soit vous baissez les pensions, c'est inimaginable. Soit vous augmentez les cotisations, c'est ce que proposent certains, mais ça veut dire 150 000 personnes au chômage de plus, ou 440 euros par an de salaire en moins pour les Français. Ça ne nous paraît pas être la bonne piste. Et donc, la troisième et dernière piste, c'est de demander aux Français qui le peuvent de travailler plus longtemps, et c'est notre proposition.
Alors, Thomas Ménager, vous vous dites il y a d'autres possibilités. Il y a notamment faire des réductions de dépenses, des économies en réduisant l'immigration, c'est ça?
Alors, ça fait partie, bien sûr, des solutions, mais là, on est sur la question du système des retraites. Donc, l'idée, c'est pas de dire n'importe quoi. Alors, bien sûr, sur le système des retraites, il y a des économies à faire liées en partie à l'immigration, puisque aujourd'hui, en France,
on peut faire des économies.
Bien sûr, mais si on reste uniquement sur le système des retraites, sur le système de retraite, il y a le minimum vieillesse, où aujourd'hui, un Français touchera le même minimum vieillesse qu'un étranger qui arrive sur notre sol pendant 10 ans avec un titre de séjour et qui n'aura jamais cotisé. Donc ça, le gouvernement ne s'attaque pas à cette question. Mais je suis d'accord avec M. Midi, il y a la question de la démographie. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui nous empêche de parler d'autres sujets, d'avoir une vision macroéconomique. On ne peut pas parler de natalité, de politique nataliste.
On ne peut pas,
vous savez, ça sera jugé irrecevable. On ne peut pas traiter
ça
ces questions
pas dans
le
une
cadre...
Loi, ça, c'est
oui,
sûr.
Parce que vous avez choisi un véhicule législatif qui nous empêche de le faire. Après, vous dites, M. Midi, que c'est pour préserver les pensions. On a l'exemple suédois. Quand on reporte l'âge de départ, vous dites pour ceux qui pourront aller jusqu'à cet âge. La vérité, c'est qu'il y en a plein qui ne pourront pas et qui ne pourront pas avoir une retraite à taux plein et donc il va y avoir une baisse des pensions.
C'est faux.
C'est ce qui se passe en Suède. 92% des retraites des femmes ont diminué, 72% des retraites des hommes, parce que les retraites seront décotées ou il y aura une absence de surcote. Mais bien sûr,
c'est
que si, parce qu'ils ne pourront pas arriver jusqu'à 64 ans.
Regardez l'évaluation qui a été donnée en transparence par le gouvernement. Vous avez 40% des Français qui verront leur retraite augmenter de 2 à 3%. D'ailleurs, 2 à 3 fois plus pour les femmes que pour les hommes.
Parce qu'ils travaillent un peu plus.
Exactement. Mais il y a, pour les 60% restants, il n'y a aucune baisse des retraites. Personne ne voit sa retraite baisser. C'est très important. C'est au cœur de la réforme qu'on propose.
Excusez-moi, M. Midi, déjà de remettre en cause les chiffres du gouvernement, parce qu'il y a des exemples étrangers qui prouvent totalement l'inverse. Les Français ne sont pas idiots, ils savent bien que s'ils arrivent tous...
Vous pouvez regarder les autres pays si vous voulez, c'est parfois intéressant, mais vous ne pouvez pas tirer des conclusions pour la France en regardant notre pays sur une réforme qui est différente.
C'est ce que vous faites continuellement, parce que c'est le président de la République qui dit qu'il faut faire et s'aligner sur les autres pays européens. On a les plus hauts taux de prélèvement d'Europe et de l'OCDE.
Ça, on est champion du monde.
Et
c'est pour ça que nous, on propose pas.
Mais c'est pour ça qu'on doit augmenter les cotisations. On doit avoir un système de protection bien meilleur.
Mais qu'est-ce
parce
que
qu'on
vous proposez,
vous
proposez, de vous proposez de travailler moins?
Non.
Moi, ce que j'ai compris des propositions du Rassemblement national, c'est qu'au départ, vous étiez pour la retraite à 60 ans. Après, vous vous êtes dit, bon, en fait, on voudrait être au gouvernement, ça n'est pas possible de faire la retraite à 60 ans, ça n'a pas de sens économique, donc on va à peu près s'accommoder de la retraite à 62 ans. En fait, je vous laisse quelques années, d'ici 2027, vous serez pour la retraite à 64 ans. Ou alors j'ai mal compris peut-être ce que vous proposez.
On a juste changé parce qu'en fait, vous avez laissé 600 milliards de dettes au pays à cause d'Emmanuel Macron, seulement un tiers lié au Covid. Et donc malheureusement, on est bien obligé d'adapter le système pour faire face à vos échecs.
François est avec nous. Bonjour François.
Oui, bonjour messieurs.
Vous êtes ingénieur, vous nous appelez de région parisienne des Hauts-de-Seine. Vous dites, j'ai 68 ans, je travaille toujours. Vous trouvez ça aberrant qu'on manifeste contre la réforme des retraites?
Alors, aberrant ou inconscient, je ne sais pas ce qui lui convient le mieux. Ouais. Pour moi, c'est avant tout un état d'esprit. J'ai eu forcément dans ma carrière des moments où j'en avais marre, mais j'ai toujours essayé de trouver un intérêt à ce que je faisais. Et en fait, pour la petite histoire, j'étais persuadé jusqu'à ce que ces mouvements se mettent en marche que la retraite était en France à 64 ans ou 65 ans et que les manifestations allaient être parce qu'on passait à 67. Moi, j'étais resté à l'époque d'avant Mitterrand, où c'était déjà 65 ans.
Ah oui, effectivement.
voilà. Donc, si vous voulez, ce n'était pas ma préoccupation.
Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts hein, depuis Mitterrand. Non, je vous taquine.
Voilà, effectivement. Alors, pour moi, il est évident que si tous les autres pays d'Europe sont passés à des âges plus avancés que 64 ans, ce n'est pas sans raison. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on vit plus vieux, mais également, comme on est maintenu en condition physique plus tard, on coûte plus cher. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et j'ai trois suggestions à faire.
Oui.
La première des choses, ça serait de créer une condition pour pouvoir assister, je dirais, financièrement les entreprises qui gardent les seniors au-delà des 64 ans. Ça veut dire que en les mettant en position de faire du coaching de jeunes qui arrivent, puisque quand on sort d'une école, une université ou autre, on n'a pas d'expérience.
Alors ça avait été testé par François Hollande, enfin sous François Hollande, ça avait moyennement fonctionné. L'idée, pourquoi pas, hein, le senior qui coach le jeune, dans les faits, ça n'avait pas pris.
Mais moi, j'avais mis en place ça à l'époque où je dirigeais une ingénierie.
Ouais.
Je prenais des stagiaires et je leur passais un genre de marché entre lui et moi. Je lui disais, voilà, pour que ton stage soit efficace, on va te consacrer du temps. Le temps qu'on va te consacrer, il coûte cher. Par contre, dans le temps où tu seras autonome sur la base de notre coaching, il faut que tu arrives à produire quelque chose qui compense le temps qu'on te consacre.
Bon. Vous avez eu un métier que vous qualifieriez d'agréable. Vous avez aimé votre métier. Et d'ailleurs, vous travaillez encore.
Ah oui. Ouais. J'ai toujours aimé mon métier. J'ai toujours trouvé un intérêt.
Ouais, le vrai problème, et vous allez rester avec nous, François, et on sera toujours avec les deux députés, bien sûr. Mais le vrai sujet, c'est pour ceux qui ont un travail pénible et qui n'aiment pas leur travail. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur travail. Alors effectivement, quand on a un métier agréable, quand on a un métier en tout cas qu'on aime bien, pour lequel on se réveille le matin et qu'on est content, on va dire 4 jours sur 5, allez, 3 jours sur 5, on est content de se réveiller, d'aller travailler. Bon, quand on vous dit vous avez travaillé 6 mois, 1 an, 2 ans de plus, bon, c'est pas un sujet. Certaines personnes, et elles sont nombreuses, visiblement, voilà, qui n'aiment pas leur travail et voient ça comme quelque chose de difficile. Et c'est là que ça coince. On va en parler juste après. La pause publicitaire et le flash. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
La réforme des retraites, journée de grève, journée de manifestation contre cette réforme des retraites. On parlait pénibilité juste avant la petite pause avec François qui nous appelle de région parisienne, 68 ans, ingénieur. François, vous aimiez bien votre travail et vous l'aimez toujours, vous avez 68 ans, vous travaillez encore. Le vrai sujet en réalité, c'est ce qu'on se disait avant cette pause, c'est que c'est la pénibilité. Ce sont les gens qui n'aiment pas leur travail. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas leur travail, qui ne se réveillent pas le matin en disant « chouette, je vais apprendre des choses, chouette, je vais retrouver des gens que j'aime bien, chouette, bon. » Paul Midi, sur la pénibilité, est-ce qu'il peut y avoir des avancées ou pas ? Paul Midi, député Renaissance.
Alors, c'est très important de dire qu'on prend le sujet que vous venez de mentionner en compte. Parce qu'il y aura 4 Français sur 10 après la réforme qui pourront partir en retraite anticipée.
Oui.
Parce qu'ils vont bénéficier des mesures de pénibilité, de carrière hachée, de carrière longue. Et 6 Français sur 10 qui vont effectivement voir... le décalage de la retraite à plein. Mais vous savez, c'est presque une vision, effectivement, c'est une vision de la société qu'il y a derrière, et une vision du travail. Nous, on porte la valeur travail, et on voit le travail comme une émancipation, pas comme une aliénation, ce qui est la vision, par exemple, des députés LFI ou de M. Mélenchon que vous citiez à l'instant. Et nous, on veut aller, par exemple, aller au plein emploi. Au plein emploi, on peut choisir son travail, on peut plus facilement négocier son salaire. On veut porter, nous, une société dans laquelle on s'épanouit par le travail.
Je parlais des métiers pénibles. Et il y a tous ceux donc, qui n'aiment pas leur travail. Ceux qui manifestent, ils n'ont pas envie de travailler deux ans
pour
de
ceux
plus.
Qui,
qu'est-ce que vous leur
pour
dites
ceux qui, y a deux, c'est deux choses différentes. Il y a ceux qui n'aiment pas leur travail.
Ouais.
Et moi, on ne va pas attendre la fin de la carrière pour qu'ils vivent une belle vie à la retraite. Il faut qu'ils changent de travail. Et pour pouvoir changer de travail, il faut former et aller au plein emploi. Et il y a ceux qui ont effectivement un travail pénible.
Vous dites, si vous n'aimez pas votre travail, changez-en.
Traversez la rue.
Il faut qu'on aide. Il y a d'autres politiques pour ça. Par contre, ceux qui ont un travail effectivement qui est pénible, il faut qu'on mette en place des mesures pour ça. Et il y a beaucoup de mesures qui ont été renforcées dans cette réforme, et notamment des nouveaux critères de pénibilité, port de charges lourdes, vibrations, posture pénible. qui permettent d'ouvrir des droits pour partir plus tôt à la retraite. Mais l'objectif numéro un aussi, quand on est dans un travail pénible avec de l'usure, c'est de pouvoir donner des capacités de formation pour changer de travail.
Monsieur Midi, vous venez de dire que vous réintégrez, alors c'est une surprise, vous réintégrez les quatre critères que vous avez supprimés.
En fait,
vous pouvez le confirmer. Parce que les quatre critères, posture pénible, charge lourde, risque chimique, ont été supprimés par Emmanuel Macron en 2019.
Ils n'étaient pas dans le système des retraites. Et on rajoute effectivement dans cette réforme, donc je vous engage à aller lire le dossier qui explique bien cette réforme des retraites.
Non, vous le prenez en
et
compte différemment.
Trois critères, ils sont pris en compte pour permettre à ceux qui en bénéficieraient de partir jusqu'à 2 ans avant l'âge
légal.
Sans
mécanisme automatique, en passant devant un médecin du travail, alors même qu'il n'y a plus de médecin du travail en France.
Non, en passant par un médecin du travail, parce qu'effectivement, c'est pour un point technique qui est qu'il y a des listes de métiers et vous pouvez être menuisier avec un travail qui est très pénible parce que vous faites ça dehors avec des outils très simples, ou vous pouvez être en intérieur avec des outils très perfectionnés dans lesquels qui limitent énormément votre pénibilité. Donc, les listes de métiers ne permettent pas d'être un critère suffisant et il faut le passage par effectivement la médecine du travail. Mais ce qui est important, c'est d'améliorer le dispositif de pénibilité.
Vous avouez, M. Midi, que vous avez fait une erreur en 2019 en retirant ces critères. C'est déjà une bonne chose. Moi, pour répondre juste à votre auditeur, oui, mais on n'empêche personne d'aller travailler plus longtemps. Ceux qui peuvent le faire, moi personnellement, je ne suis pas touché par cette réforme. Je suis rentré sur le marché du travail, je crois, à 22-23 ans. J'aurais dû aller jusqu'à 66. Il n'y a quasiment aucun problème pour moi. Moi, je ne me bats pas pour ma personne. Bien sûr, les cadres supérieurs, les consultants chez McKinsey n'auront pas de problème avec cette réforme. Moi, je pense avant tout à ces Français. Moi, mon père est couvreur. Il a commencé... quelqu'un qui est couvreur, qui a un métier difficile, un carreleur, s'il commence à 20 ans, il va travailler 44 annuités. Alors que
Travaille 45 aujourd'hui, voire parfois 46 ou 47. Hein.
Ah mais attendez, je vous dis pas que le système est parfait parce que Marine Le Pen, c'est pas parce qu'il y a quelques améliorations dans le projet qu'il y a surtout une casse sociale totale pour une grande partie des Français, Monsieur Midi. Nous on est très constructifs. Je vous ai dit, il y a certaines choses sur lesquelles on pourrait être d'accord. Il n'empêche que le report, c'est une injustice parce qu'il y a 13 ans d'espérance de vie entre les plus modestes et les plus aisés. Donc bien entendu, l'espérance de vie a peut-être augmenté, mais pas pour ceux qui ont les métiers les plus pénibles, les plus usants. Et c'est pour ça que le programme de Marine Le Pen considérait qu'on devait avoir 40 annuités à partir de 60 ans pour ceux qui commencent avant 20 ans, ouais, qui ont les métiers les plus pénibles, et progressivement jusqu'à 42 annuités et 62 ans pour ceux qui ont commencé après 20 ans.
François, vous êtes toujours avec nous. Vous dites, il y a un problème de rapport au travail en France ou pas ?
Ah, oui, pour moi, il y a effectivement... Depuis la réforme des 35 heures, j'ai constaté autour de moi un net changement d'état d'esprit. Autrefois, le travail était un moment de la vie parmi les autres. Aujourd'hui, c'est devenu une contrainte dont il faut se débarrasser. Et c'est cet état d'esprit qui fait que si tout le monde vit ça comme une contrainte, effectivement, personne n'a envie de travailler plus. Mais je voudrais profiter de ce que vous me donnez la parole pour deux petites remarques.
Rapidement, s'il vous plaît, François, parce qu'il y a, y a d'autres gens qui veulent parler.
Passer à 64 ans, on risque de recommencer dans 4 ans pour repasser à 65. Et d'autre part, peut-être qu'en indexant l'âge de départ sur l'espérance de vie nationale, de la même façon qu'on indexe le SMIC sur l'inflation, pourrait être un moyen d'éviter de rediscuter en permanence des choses où on aura forcément une majorité de gens contre.
Oui, voilà, créer d'ores et déjà un système qui s'adapte à l'espérance de vie. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 39-21. En quelques mots,
je comprends l'idée de votre auditeur, mais c'est faire fi du fait qu'aujourd'hui, il y a une différence d'espérance de vie et une différence d'amélioration d'espérance de vie entre ceux qui ont les métiers les plus simples, ceux qui sont dans des bureaux, qui ont un métier à l'abri, et ceux qui sont dans les usines, qui sont sur le terrain, qui, eux, ont une espérance de vie qui est fortement diminuée.
Paul Midi.
L'espérance de vie en bonne santé, elle a augmenté de 2 ans depuis la dernière réforme des retraites en 2010. Mais effectivement, avec des grosses différences, aussi des grosses différences hommes-femmes. C'est 2,4 ans pour les femmes, 1,7 ans pour les hommes. C'est ça qui fait la moyenne à peu près à 2 ans pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il faille faire un système automatique, mais ça fait partie des critères qu'il faut regarder quand on propose, et c'est ce qu'on a fait nous, un recul de l'âge de départ à la retraite.
quelle mobilisation aujourd'hui. On part, on est allé à Marseille, on est allé à Paris, on est allé à Valenciennes, j'en oublie certainement, et Toulouse, voilà, on me le souffle dans le casque. Et là maintenant, on part à Bordeaux, retrouver Stéphane Plasque. Bonjour Stéphane.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Quel est l'état, le niveau de mobilisation ?
Bah écoutez, c'est assez impressionnant. Je me trouve actuellement sur les quais bordelais, au niveau du miroir d'eau qui est très connu en bord de Garonne. C'est là que vient de passer la tête de cortège avec les bannières de tous les syndicats réunis en intersyndicale. Et vous savez, les manifestants partent cette fois-ci, contrairement au 19 janvier, de la place des Quinconces, qui est juste la place la plus importante, la plus grande d'Europe, 12 hectares, tout simplement parce que les organisateurs ont misé sur 60 à 80 000 manifestants aujourd'hui. Ils ont revendiqué 60 000 le 19 janvier. Et puis là, le cortège va prendre des artères plus larges ici à Bordeaux, là encore, pour une question de logistique et en misant sur le fait que le rassemblement va être beaucoup plus impressionnant encore que le 19 janvier. Voilà donc pour le pari des syndicats. Il est un peu tôt pour vous dire s'il sera tenu. Tout cela se déroule dans une bonne ambiance. C'est l'avantage de se donner rendez-vous à la mi-journée ici à Bordeaux, dans une odeur de sandwich. Et puis on a sorti aussi quelques bonnes bouteilles, je l'ai vu, entre manifestants. Et parmi ces manifestants, il y a un élément qui est frappant, c'est finalement la représentation de générations différentes. Il y a à la fois des retraités, des gens qui ont plutôt la cinquantaine, mais il y a aussi des jeunes comme Océane, qui est étudiante en Master 2, qui n'a pas participé à la manifestation le 19 janvier dernier et qui tenait aujourd'hui à être présente.
C'est que je pouvais vraiment pas être là la première. Je voulais venir, mais je pouvais pas. Après, moi, je vous avoue que je pense surtout à mes parents qui là ont la cinquantaine et qui travaillent difficilement et qui vont du coup potentiellement aller très loin dans le boulot. Et je me dis que si là, aujourd'hui, on passe à 64 ans, qu'est-ce que ça va être quand nous, on arrivera à l'âge de la retraite ? Moi, j'ai 23 ans et il y a aussi l'idée des 43 ans à cotiser. Ça veut dire que j'aurais dû commencer à travailler à 21 ans pour pouvoir avoir la chance de partir à 64. Qu'est-ce qui va se passer là ? Si moi, je suis toujours en master, j'ai 23 ans, bientôt 24, je vais partir quand ?
Les interrogations d'Océane, étudiante qui a rejoint la manifestation bordelaise aujourd'hui. Romain, un élément très important et très différent par rapport au 19 janvier. Aujourd'hui, Il fait très beau.
Mais oui, c'est effectivement, il y a souvent plus de monde quand il fait beau. Merci beaucoup Stéphane Plasque. Merci d'avoir été en direct dans Europe Midi. Thomas Ménager, là on a entendu une jeune, tiens, une étudiante, 23-24 ans, qui commence déjà à penser à sa retraite. Vous soutenez, vous comprenez. Il y a des lycéens également qui bloquent des lycées. Bon, on oublie le blocage, mais qui disent la retraite c'est important. Vous plaît, oui.
C'est légitime déjà, en plus On le fait aussi peut-être pour nos parents. Enfin, moi je vois la génération de mes parents. En 12 ans, c'est 4 ans de travail en plus pour la génération des années 60, la génération de mes parents. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle un certain nombre de jeunes se mobilisent. Et puis après, aujourd'hui, en démocratie, on ne va pas se soucier que de son cas particulier, de son cas personnel. On a le droit d'avoir des idées politiques et, et aussi de penser à son avenir, à dans quelle France on souhaite vivre. Est-ce qu'on veut une France qui fait des choix comptables ou une France qui a un vrai projet de société et c'est ce que nous défendons.
On est avec Jacques qui nous appelle de Lyon. Bonjour Jacques.
Et merci de me donner la parole.
Bah, merci à vous de nous appeler au 3921. Vous dites que vous êtes pour la réforme, mais il y a un mais.
Alors, je suis pour la réforme des retraites à la condition qu'elle soit juste. Pour qu'elle soit juste, je propose les solutions suivantes. 1. On remet la semaine à 40 heures.
Ah bah vous allez avoir du succès, tiens.
2. Bon. On supprime les régimes spéciaux.
Ah, c'est fait.
3. On remet la plupart des demandeurs d'emploi au travail.
C'est en cours.
En contrepartie de tout ça, on permet aux gens de partir après 40 ans d'annuité, quel que soit leur âge. C'est-à-dire que celui qui a 14 ans part à 54 ans, celui qui a 20 ans part à 60 ans, celui qui a 25 ans part à 65 ans. Mmh. Tout le monde fait 40 annuités.
On travaille, on revient à 40 heures. Bon, alors c'est encore une autre... Je ne sais pas si le gouvernement prévoit de rallonger la...
Je vous confirme que non.
Que non, hein, la durée hebdomadaire du travail. Ce n'est pas une information qui m'était revenue. Les régimes spéciaux, bon, ils ont déjà été supprimés. Alors, oui, ils sont supprimés. C'est-à-dire que si vous êtes embauché aujourd'hui à la SNCF, vous n'êtes plus sous un régime spécial.
Cette réforme, on supprime les principaux qui restent, ceux de la RATP et des électriciens et des gaziers. Pareil avec la clause du grand-père, c'est-à-dire que les gens qui vont entrer dans ces industries-là entreront dans le régime général de retraite.
Oui, oui. Et il y a également ce que nous propose, dont Jacques.
Il y avait la baisse du chômage.
La baisse du chômage. On remet les chemins au travail, mais ça se décrète pas d'un claquement
de doigts. Ça se décrète pas, mais c'est très important. Monsieur a raison.
Oui.
On a baissé nous le chômage d'à peu près 10% à 7%. C'est 1,5 million d'emplois qui ont été créés. Il faut qu'on refasse à peu près ce chemin-là sur ce quinquennat pour arriver au plein emploi, c'est-à-dire 5% de chômage. C'est très bon pour tout le monde, parce que quand on est au plein emploi, c'est une situation qui est différente. On peut choisir son entreprise, on peut choisir son emploi, on a beaucoup plus de capacité à négocier son salaire avec son employeur. Et donc, c'est vraiment un changement de société, il y a moins de discrimination. Donc, il faut y aller pour toutes ces raisons, mais ça a aussi un impact très bon sur le financement de la protection sociale, bien sûr.
Thomas Ménager.
Alors, je suis d'accord avec M. Midi, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les emplois que vous créez, ce n'est pas des emplois qui créent de la valeur. Ce sont des emplois ubérisés, ce sont des temps partiels. Aujourd'hui, on voit la productivité est au point mort depuis Emmanuel Macron. Non, la vraie question qu'il y a, c'est de créer réellement de la richesse, c'est créer des emplois qui vont participer à réellement, avec des vraies cotisations, avec des vrais salaires, et pas une société où ce sont des temps partiels, des jobs totalement pourris que les gens sont obligés de prendre. Et donc, c'est aussi un vrai sujet. Mais on en revient au problème initial, c'est qu'on a on est dans l'incapacité, avec le véhicule législatif que vous avez utilisé pour utiliser le 47.1, donc contraindre les débats, et pour pouvoir utiliser le 49.3, c'est-à-dire d'utiliser un texte budgétaire qui nous empêche. C'est-à-dire que c'est un cavalier budgétaire. Il faut que les auditeurs comprennent. C'est-à-dire que nous, Rassemblement National, nous avons des mesures en termes de sur la question de la natalité, sur la productivité, sur la réindustrialisation, c'est-à-dire de la création réelle d'emplois.
Qui ne sont pas des mesures budgétaires et qui ne peuvent pas être proposées.
Qui ne peuvent pas être dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
C'est un peu technique, mais c'est ça.
C'est un peu technique, mais ça en dit long, parce que nous, on a une vision macroéconomique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport du Conseil d'orientation des retraites est très clair. Les dépenses sont maîtrisées. Le problème, il est sur les recettes. Pour augmenter les recettes, il faut qu'il y ait plus d'enfants pour qu'il y ait plus de cotisants, parce que les bébés d'aujourd'hui, ça sera les cotisants de demain, dans une vingtaine d'années. Il faut qu'il y ait des usines, il faut qu'on réindustrialise, il faut qu'on crée des emplois qui créent de la valeur. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que vous faites, M. Midi, et surtout vous nous empêchez, nous, opposition, de faire des mesures en la matière.
Vous ne pouvez pas dire que les emplois qui sont créés sont des mauvais emplois. Par exemple, moi je suis chargé par la Première Ministre d'une mission sur le soutien à l'investissement dans les start-up, les PME innovantes et les PME de croissance. Pourquoi on fait ça? Pas pour le plaisir de créer des start-up ou développer des PME, parce que ça crée de l'emploi et que c'est la meilleure façon de créer de l'emploi. Et des emplois de toutes les qualités. On peut faire un tiers de notre chemin vers le plein emploi grâce à ces start-up, ces PME innovantes et ces PME de croissance. Et ça c'est de l'emploi, notamment industriel, dans nos territoires.
Merci beaucoup à tous les deux, Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret.
Merci à vous.
Et merci à vous, Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne. Voilà, manifestation en région ce matin, en région actuellement, à Paris cet après-midi. On va en parler évidemment dans Europe Soir, bien sûr, et puis demain dans Europe Midi, demain matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko, bien sûr. Dans un instant, on va changer de sujet, et je sais que ça vous fait beaucoup réagir également. Il y a des médecins qui alertent sur le phénomène des rendez-vous médicaux non honorés. Vous prenez rendez-vous chez le médecin, vous n'y allez pas. Ça agace. Le mot est faible. On en parle avec le docteur Marty. À tout de suite.